Voix de service, mercredi 28 mars 2018. Vous savez, le regard qu'ont les chevreuils quand ils se font prendre dans les phares d'un véhicule sur la route, j'ai toujours l'impression d'avoir ces yeux-là quand j'essaie de dire la date.
Ça ressemble à ça. On n'osait pas le dire.
C'est le son des yeux de chevreuil.
Le son des yeux, oui.
Alors aujourd'hui... pour ma part, je m'appelle Isabelle Falardeau, bonjour.
Ah, enchantée, bonjour.
Daniel Lachance avec moi et Serge Bradet.
Bonjour.
Et aujourd'hui, Maurice Bolduc à la mise en onde. Et moi, je vais vous parler d'un sujet assez déprimant.
Bon.
Il fallait le faire parce que le Journal de Montréal a fait un gros effort et a vraiment présenté un dossier, une enquête, en fait, avec plusieurs articles sur... principalement le père Jovenot, qui était un Oblat qui travaillait avec les Inuits sur la Côte-Nord et qui était un monstre. C'est comme ça qu'on l'a surnommé le monstre de la Côte-Nord. Et puis, je vais vous donner plus de détails sur le pourquoi, de comment il était, de pourquoi on l'appelait le monstre. Et j'espère que, messieurs, vous avez des sujets plus réjouissants pour faire contre
Oui, oui, absolument. Je vais vous parler premièrement, vous vous souvenez de la chanteuse Lassa de Cela?
Mm-hmm.
Je vais vous en reparler tantôt.
Oui.
Petit quelque chose de nouveau à son sujet.
Et en deuxième partie... Est-ce qu'ils l'ont retrouvé sur l'île d'Elvis?
Non, ça, non. Il n'est pas mentionné dans l'article.
Ça, ça été
c'est
trop
possible.
Beau.
C'est possible. Avec John F. Kennedy aussi.
Oui, c'est
Jésus
ça.
Jésus-Christ, toute la gang.
Marilyn Monroe.
Et en deuxième partie, je vais vous parler du gala des prix Juno.
Ah oui.
Qu'on n'entend pas beaucoup parler
vous
ici.
Vous parlez du fait qu'il y avait pas assez de français.
Oui, effectivement.
On t'entend ça. Et Serge?
Dans la revue Historia spéciale de janvier 2018, c'est un spécial sur les tuniques bleues, les soldats américains qui portaient l'uniforme bleu au siècle dernier.
Uh-huh.
J'ai un article triste parce que je vais parler de la guerre de sécession.
Ah oui, c'est pas très réjouissant. Ça finissait bien.
Oui, 1861-1865. Mais... Puis un article un peu plus amusant. Si je vous dis Camélidée, ça vous fait penser à quoi?
Camélidée, les chameaux?
Les chameaux.
Les dromadaires?
Mm-hmm.
Ben,
savez-vous qu'il y a eu un corps, un régiment de chameaux aux États-Unis?
Un régiment aux États-Unis. De chameaux. Ah ben j'ai très hâte d'en penser.
Un escadron de chameaux. Pas un régiment, un escadron de chameaux.
Merci beaucoup. Et puis on commence avec la musique.
Oui, okay. On commence avec Lassa de Cela. C'est un article que j'ai trouvé dans la Presse Plus, édition du 26 mars, qui a pour titre « Les sœurs de Lassa de Cela à complètement cirque ». Deux des sœurs de la regrettée Lassa de Cela présenteront cet été un spectacle acrobatique au festival Montréal complètement cirque. Aïn et Myriam de Cela ont fait appel à leur ami Gypsy Snyder, des sept doigts de la main, pour créer ce huis clos entre sœurs, sur la musique de Lassa. Avec Lassa, ils étaient 10 enfants, dont 6 sœurs. Ça fait 4 gars, ça,
quand
j'imagine.
Quand même, c'est une grosse famille aussi.
Le hasard a fait que 3 d'entre elles sont devenues artistes de cirque. Aïn, Sky, j'imagine que ça se prononce Aïn, A-Y-I-N. Sky et Myriam ont fait leur début en cirque à San Francisco avec le Pickle Family Circus. En français, j'imagine, la famille du cirque du cornichon.
Cornichon Pickle.
Pickle. Compagnie de cirque fondée par les parents de Gypsy Snyder, qui a elle-même cofondé les Sept Doigts de la Main à Montréal début des années 2000. Tout est lié, vous verrez.
Tout est dans tout.
On s'est connus à l'école Urban High School dans un quartier hippie de San Francisco, nous raconte Gypsy Snyder. Sky était ma meilleure amie. Je l'ai convaincue de faire du cirque avec ma famille. On venait de Cercle Bohème. Puis, ses sœurs Aïn et Myriam ont embarqué. Lassa préférait la musique. Mon premier numéro, de main à main, je l'ai fait avec Myriam, qui était voltigeuse. Elle avait 9 ans, moi 15. Donc, ça remonte à quelques années. Les premiers séjours de Lassa à Montréal étaient familiaux. La jeune auteure, chanteuse et musicienne venait ici pour voir ses sœurs, qui étudiaient à l'École nationale de cirque de Montréal, à la gare d'Alousie, qui est devenue quartier général du cirque Éloïse.
Éloise, oui. Mm-hmm.
Sky est devenu trapéziste, Aïn, fil de feriste, je pensais qu'on disait funambule, je ne sais pas si ça a changé avec le temps.
J'avoue, peut-être.
Ça doit être la même job, genre.
Ça doit être la même job.
Ça ressemble pas mal. Donc, Aïn, fil de feriste et Myriam, voltigeuse et équilibriste. L'idée de ce spectacle est venue d'Aïn et Myriam, maintenant dans la quarantaine, qui habitent toutes les deux en France. On a commencé à travailler ensemble tout doucement, nous dit Myriam de Cela, sans savoir exactement ce qu'on ferait. Petit à petit, notre projet s'est précisé. On a eu envie de parler de notre relation entre sœurs. Une relation obligée où chacune tente de trouver sa propre identité, mais où on est tout le temps ramené l'une à l'autre. C'est à ce moment-là qu'on a fait appel à Gypsy, parce qu'elle est très liée à notre histoire et à notre famille. Toute la famille de Céla est très intense et très proche, et ils ont tous trouvé le bonheur dans la créativité et les arts, la poésie, la musique, le cirque. Mais en même temps, ils ont travaillé fort pour trouver leur voie. Sisters parle de ça, de l'univers parallèle de deux sœurs qui s'aiment, mais qui sont condamnées à vivre ensemble et qui cherchent à échapper à cette relation. Ce spectacle, promet Gypsy Snyder, sera à l'image de l'univers artistique de Lhasa. Il y a un monde fabuleux qui va beaucoup plus loin que sa musique, analyse-t-elle. Un monde très coloré, à la fois musical, visuel et sonore. Le spectacle sera simple, beau, intime et fin. Avec un côté hypnotique, une sorte de conte dans lequel deux sœurs cherchent leur bonheur. Les sœurs de Céla partageront la scène avec un autre artiste de cirque, William Underwood, un maître du mât chinois, mais aussi avec la harpiste Sarah Paget qui a joué avec Lhasa et plus récemment avec les Bar Brothers. Elle interprétera d'ailleurs ses pièces tout en narrant l'histoire. Évidemment, on entendra aussi la voix de Lhasa qui sera très présente. C'est encore embryonnaire, mais je peux vous dire par exemple qu'on fera une interprétation instrumentale de la pièce « Anywhere on this road », révèle Myriam. Il y a plein de chansons de Lhasa qu'on veut retrouver dans le spectacle. On n'a pas encore tout décidé, mais je peux vous dire qu'on entendra sa chanson « Soon this space will be too small ». Ayin, qui a mené une fabuleuse carrière de fil de feriste, a dû réorienter sa vie à l'époque où sa sœur Lhasa est tombée malade. Elle a eu une tumeur bénigne au cerveau qui a eu un effet sur son équilibre, détaille Gypsy Snyder. Elle ne pouvait plus marcher en ligne droite. Elle crée aujourd'hui des parfums et sur scène, elle va jouer parce qu'elle est aussi actrice, mais elle va aussi créer des odeurs. Ça, c'est la première fois que j'entends parler de ça, mm-hmm. un spectacle ouais, avec j'avoue. Du visuel, de l'auditif et des odeurs en plus. Mm-hmm. En odorama. Même s'il ne s'agit pas d'un hommage à Lhasa, Sisters est une pièce qui abordera l'univers fantastique de Lhasa et de ses sœurs. Un parcours qui croise celui de Gypsy Snyder, qui a vécu des moments précieux avec la chanteuse. On avait beaucoup d'affinités musicales et littéraires, nous confie Gypsy Snyder, qui se sent très proche des sœurs de Céla. Lhasa était ma confidente et ma meilleure copine à Montréal, rappelle-t-elle. J'ai eu un cancer en même temps qu'elle, en 2008. Elle était là quand j'ai eu mes premiers traitements et j'étais là pour elle. J'étais sûr qu'elle allait s'en sortir et que j'allais mourir, parce que mon cancer était à un stade plus avancé que le sien. Finalement, j'ai vécu et elle non. Oh. Dommage, hein? Ben, dommage. Ben,
pas pour elle,
chanceux
mais...
pour elle, mais dommage pour ça. Sisters sera présenté du 8 au 14 juillet au Théâtre Outremont et les billets seront en vente à partir d'aujourd'hui, le 28 mars.
Alors maintenant, en histoire...
Mm-hmm, la guerre de sécession.
La guerre de sécession.
Oui, un article tiré de l'Historia spécial de janvier 2018 consacré aux tuniques bleues. Et c'est des guerres indiennes à la guerre de sécession.
On ne peut pas confondre avec les casques bleus. Hein?
Non, 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 pas du tout, du tout. C'est pas toute la même chose. Non, non. C'est un article de Bertrand Van Rumbeck. Rien ne va plus entre le nord industriel et le sud rural, entre le monde des affaires et une société de planteurs fondée sur l'esclavage. Le conflit fratricide éclate en 1861. En jeu, l'unité de la nation, mais aussi la marche vers le progrès. La tuerie dans une église africaine-américaine de Charleston, en Caroline du Sud, perpétrée en avril 2015 par un meurtrier fou et haineux, ainsi que les violents incidents de Charlottesville, en Virginie, en août 2017, révèle à quel point la mémoire de la Confédération et de la guerre de sécession est encore vive et douloureuse aux États-Unis, un siècle et demi après la fin du conflit. Parce que cette mémoire est régulièrement sujette à controverses, souvent détournée, parfois instrumentalisée, il est impératif de comprendre en premier lieu les raisons de la sécession et, plus fondamentalement, de situer la place du Sud dans l'histoire américaine. Tout d'abord, il est essentiel de rappeler que les États côtiers du Sud, à l'époque dite de la Jeune République, soit de 1790 à 1820, occupe une place centrale sur l'échiquier politique des États-Unis. 4 des 5 premiers présidents sont des Virginiens. Parmi eux, George Washington a mené l'armée américaine, appelée Continental Army, à la victoire à la bataille de Yorktown en octobre 1781. Thomas Jefferson a rédigé la Déclaration d'indépendance en juillet 1776 et James Monroe a donné son nom à une doctrine qui occupe une place capitale dans la politique étrangère américaine depuis 1823. Dans les années 1810, ce sont plutôt les élites de la Nouvelle-Angleterre qui menacent de faire sécession.
Ah oui.
Avant 1800, le Sud produit du tabac et du riz. L'esclavage semble alors condamné. Dans les premières décennies du 19e siècle, cependant, le coton, relativement facile à cultiver et très rentable, s'y impose au fur et à mesure que la région s'étend vers le fleuve Mississippi et que s'y créent de nouveaux États. La Louisiane en 1812, l'Alabama en 1817 et le Mississippi en 1819. Cette mutation agricole et économique donne une nouvelle vie à l'esclavage, surnommée l'institution particulière.
L'institution particulière.
Ouais.
Mm-hmm. Intéressant.
À partir de 1820, les États du Sud, arc-boutés sur un système économique esclavagiste de notre temps, développent une mentalité d'assiégé face au reste du pays qui leur sera fatale. Le coton a transformé le Sud. Une incroyable tension parcourt les années 1850, une décennie décisive. À partir de 1854, le Kansas, divisé sur l'instauration de l'esclavage, est à feu et à sang. En 1857, la Cour suprême, composée en majorité de magistrats du sud des États-Unis, décide que les Afro-Américains ne peuvent pas aspirer à la citoyenneté américaine.
Ah oui, je ne savais pas ça.
Ouais. Mm-hmm. En 1859, l'abolitionniste John Brown et sa bande payent un arsenal en Virginie dans l'intention d'incendier plantations et de conduire les esclaves à la révolte. Brown est capturé, jugé et pendu. Enfin, à l'automne 1860, l'élection à la présidence d'Abraham Lincoln, perçue à tort par les sudistes comme un abolitionniste, fait éclater le pays. 6 mois plus tard, 11 États ont fait sécession: Caroline du Sud, Caroline du Nord, Géorgie, Floride, Louisiane, Texas, Arkansas, Alabama, Mississippi, Tennessee et Virginie.
Vous n'aviez pas dit 6?
Non, 6 mois plus tard.
Ah,
six mois plus tard, 11 États.
Faut suivre.
Oui, j'ai la misère avec mes chiffres. Oui. Ça va bien, merci.
11 mois plus tard, 6 États. Non. La guerre de sécession, Civil War en américain, est effroyable. Elle oppose les tuniques grises, le Sud, aux tuniques bleues, qui sont au Nord.
OK, c'est okay, ça.
Donc les bleus, c'était les bons.
Ouais. Les gris, c'était le général Lee.
Ouais.
Et si le Sud avait gagné, ben les gris seraient devenus les bons.
Oui, c'est ça.
Soit les gris contre les blues. Le conflit dure 4 ans, 1861 à 1865, fait plus de 620 000 morts.
Quand même, hein, pour l'époque.
Ouais. Soit 1,6% de la population.
Ouais, c'est ça.
Ravage tout le Sud, une immense région qui s'étend de la Virginie au Texas et de l'Arkansas à la Floride, dont de nombreuses villes et plantations. Le conflit est émaillé de sanglantes batailles au cours desquelles la cavalerie joue un rôle certain. Et il y a 620 000 morts et on dit que ce serait plus que le nombre de soldats américains qui seraient décédés au cours des deux guerres, en tout cas au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que si on additionne les deux, Première et Deuxième Guerre, ça a fait moins de morts que les 620
000. C'est possible parce que quand même, dans les deux cas, les Américains sont arrivés vers la fin de la guerre, quand la majorité des morts avaient déjà été...
Mais la première, 1917, le deuxième, ils sont quand même rentrés en 1942.
Un peu plus tôt, sinon c'est vrai, oui, j'avais raison. Mais la première a dû être plus sanglante pour les soldats, les guerres de tranchées.
Ah oui, c'est sûr.
Je connais pas grand-chose, mais...
Donc, c'est le cas notamment de la campagne de Gettysburg, menée par le général confédéré et virginien Robert E. Lee. Le plan de Lee, un ancien officier de l'armée formé comme ses adversaires nordistes dans la prestigieuse académie militaire de West Point, est de prendre les armées du Nord à revers en pénétrant en Pennsylvanie. C'est la grande incursion des confédérés dans le Nord. Véritable coup de poker. Lee engage 7500 cavaliers et 63 000 fantassins. La bataille, qui s'étire sur 3 jours, du 1er au 3 juillet, soit la veille de l'Independence Day, la fête nationale le 4, tourne au carnage. 5 000 morts dans les deux camps. Gettysburg est un tournant dans le conflit. Le Sud ne conduira dès lors qu'une guerre défensive, battant graduellement en retraite. Ce même été, le Nord conquiert Vicksburg, un important verrou sur le Mississippi. Pendant l'année 1864 et le printemps 65, les armées des généraux nordistes Ulysses S. Grant et William Sherman font tomber Atlanta en Géorgie, Columbia en Caroline du Sud, et finalement Richmond en Virginie, la capitale de la Confédération. En avril 65, Lee se rend, la fin du massacre a sonné. La guerre de sécession est une guerre civile, mais aussi une guerre de libération. En 1865, l'esclavage est aboli. 4 millions d'esclaves sont libérés.
Pour les 4 millions,
hein, c'est assez important.
Wow.
Pour les États-Unis, ce conflit est également une lutte d'unification. Perçue comme une guerre d'indépendance par les sudistes, elle voit à l'inverse les pouvoirs de l'État fédéral se renforcer. La culture, la fête de Thanksgiving, tirée de l'histoire des puritains de la Nouvelle-Angleterre, devient fête nationale en 1863. Le système économique et le modèle de société du Nord s'imposaient de par le pays. La défaite du Sud ouvre la porte de la modernité aux États-Unis. C'est vers le Pacifique et les territoires de l'Ouest que désormais tous les regards se tournent. Et un vétéran dira « C'est la jeunesse sudiste qui tombe au champ d'honneur. Nous étions bien prodigues de notre sang. »
Eh oui.
Frontera, otra vez he de atravesar, es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás de esa pared. Que detrás de esa pared me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno, es el viento que las manda. No hay nadie que las pare, a veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada, a veces baile, a veces nada. Cruzo la frontera, bajo el cielo, es el viento que me manda, bajo el cielo de acero, soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte, a las orillas de la suerte.
La sa de cela est la pièce La Frontera.
C'est toujours plaisant et en même temps triste d'entendre cela. Et bien, c'est ça pour terminer cette première partie de l'émission. Je vais vous parler de ce dossier dans le Journal de Montréal qui commençait samedi dernier, samedi, dimanche. Il y avait vraiment plusieurs articles. dont je vous donne un exemple, là, un paraître prédophile caché par les Oblats pendant 16 ans, agressé chaque jour par son oncle. Juveneau et Ottawa avaient un plan machiavélique de déportation. Le père Juveneau a-t-il été caché au Québec par les Oblats d'Europe? Le père Juveneau organisait des mariages forcés entre Innus. Il agressait sexuellement les Innus au nom de Dieu. Bref, toute une série d'articles et vraiment l'enquête est assez bien documentée. Alors, j'avais pas le choix, je trouvais qu'il fallait que j'en parle. Alors, parmi tous ces articles-là, celui qui donnait, je pense, le plus d'informations sur... en fait, c'est l'article central, c'est celui au nom le plus sensationnaliste. Donc, il agressait sexuellement les Innus au nom de Dieu. Le père Juveneau promettait l'enfer aux enfants qui ne comblaient pas ses besoins. Cet article est signé Magali Lapointe. Il y a aussi plusieurs articles qui sont signés Camille Garnier dans la série. Alors, de nouvelles victimes se manifestent pour la première fois après avoir été agressées par Alexis Juveneau, un père Oblat qui continue de hanter les Innus de la Basse-Côte-Nord 25 ans après sa mort. Il faut savoir que, petite parenthèse, on avait déjà commencé à en parler en novembre parce que c'est là, dans la commission... sur les femmes autochtones disparues et assassinées. Il y a eu, c'est ça, des témoignages d'agression du père Juveneau, mais on n'en a pas vraiment parlé jusqu'à ce que ça ressorte, là, justement, dans ce dossier. Alors, le journal a recueilli ces nouveaux témoignages troublants dans les communautés d'Unamen Chipu, qu'on connaît, nous, comme la Romaine, et de Pakwa Chipi, où ce missionnaire qu'on surnommait Dieu et qui se prenait pour Jésus a volé les Autochtones, en plus de les agresser sexuellement, physiquement et psychologiquement pendant 39 ans. Ces nouveaux témoignages sont à ce point accablants que les Oblats du Québec ont tenu à exprimer leurs excuses lorsqu'ils en ont pris connaissance. Pierrette Mestenapeo est l'une des victimes, de ces victimes. Cette femme de 59 ans déteste regarder par sa fenêtre, qui donne sur la croix blanche sous laquelle a été enterré le père Alexis Juveneau, qu'il a agressé sexuellement plusieurs fois dans son enfance dans les années 1970. Chaque fois qu'elle voit cette croix, la laine de vieille cigarette du père Juveneau, son rire fort et gras et les agressions répétées dont elle a été victime lui reviennent à l'esprit. La première fois, elle avait 12 ans. L'agression s'est produite au confessionnal, l'un des endroits préférés du religieux pour abuser de ses jeunes proies. Pendant sa confession, le père Juveneau jouait avec les bretelles de son soutien-gorge, glissait sa main dans son chandail en lui flattant le ventre, caressait ses seins, touchait le bas de son dos jusqu'à ses fesses et l'embrassait avec son haleine de tabac et de lendemain de veille. Le prêtre lui demandait de répéter « Je vous salue Marie » en français, alors qu'elle ne le connaissait pas. Il lui apprenait tout en lui caressant le corps et en lui chuchotant des mots à l'oreille. Il lui disait qu'il agissait au nom de Dieu. « Il était méchant avec les enfants », dit-elle. Le cubicule n'était pas grand, il y avait une chaise et un banc, mais il ne voulait pas que je m'agenouille. Il me disait « Viens dans les bras de Jésus ». Et les agressions commençaient. Des histoires comme celle-ci, il y en a eu des dizaines pendant le règne d'Alexis Juveneau à Unamen Chipi et à Pakwa Chipi, à Chipu, pardon, Unamen Chipu et Pakwa Chipi, à plus ou moins 500 km à l'est de cette île. Le journal en relate d'ailleurs plusieurs autres dans son dossier. Le père provincial des Oblats, Luc Tardif, le qualifie maintenant de peste avec des gestes dégoûtants. En 1953, certains Innus étaient encore nomades. Ils ne parlaient pas bien français et n'étaient pas instruits. C'est dans ce contexte que le père Juveneau est arrivé et s'est mis à parler en Innu, une langue qu'il avait apprise pendant l'année qu'il avait passée au Labrador. En plus d'être un blanc qui parlait Innu, Alexis Juveneau avait de la prestance. Il s'est immédiatement attiré le respect de la communauté. Lorsqu'un Innu avait besoin de traduire un document ou de parler à un pilote d'avion pour envoyer des enfants malades se faire soigner, le père Juveneau servait de traducteur. Il remplissait les demandes d'aide sociale ou de pension de vieillesse. C'est ainsi qu'il s'est rendu indispensable. Dans son enfance en Belgique, celui qui se faisait appeler « Lama Pétulant » chez les scouts était reconnu comme un leader. Dans ces communautés pauvres, les seuls accès sont par motoneige, avion ou bateau. Malgré les difficultés, Juveneau a tout de même réussi à construire côte à côte une église, un presbytère, une salle communautaire et une école, appelée ironiquement Saint-Alexis. Mmh. on ne sait pas s'il y a un lien avec le prénom Alexis du père Juveneau. Tous se rappellent qu'il avait un grand charisme et des bonbons dans son presbytère pour attirer les enfants. Incroyable. C'est un classique. Presque un cliché.
Vieux monsieur qui donne des bonbons, vraiment.
Eh oui. Alors, Louise Lalot est allée au presbytère après l'école. Selon elle, il y avait toujours un enfant sur les genoux du curé pendant que les autres couraient autour de la table de cuisine en s'empiffrant. À une époque, il avait pris sous son aile 12 hommes du village, surnommés les apôtres. Lors des messes, ceux-ci se plaçaient derrière ou à genoux devant leur Jésus. Il était constamment accompagné de ceux-ci lorsqu'il se promenait dans le village. Chaque dimanche, dans ses sermons, Alexis Joveneau parlait du paradis, du démon et de l'enfer. Selon plusieurs autochtones, il en était obsédé. Il avait réussi à créer une véritable peur de l'enfer. Les gens n'avaient qu'une chose en tête, aller au paradis. Il menaçait de l'enfer quiconque lui désobéirait. C'est un petit peu un classique hein, pour les prêtres là, de cette époque-là qui prenaient avantage de gens peu instruits, qui croyaient, qui faisaient n'importe quoi pour ne pas se ramasser en enfer. Alors, c'est tellement triste. Alors, il avait placé deux affiches de la hauteur de la porte à l'entrée de l'église, une pour aller au paradis et une autre pour aller en enfer. « Nous devions suivre la bonne affiche », se souvient Charles Happy Bellefleur. Siméon Malek se rappelle très bien le jour de sa première communion, à l'âge de 8 ans, alors qu'il a été agressé par le curé. Ce dernier lui a montré à faire une fellation et lui a promis l'enfer si ce n'était pas à son goût. J'étais terrifiée.
Seigneur.
Oui, le père Joveneau exerçait un pouvoir important sur ces communautés qui étaient pratiquement sans contact avec le reste du Québec en raison de l'éloignement, mais aussi de la langue. Il devenait donc très difficile pour les Innus de le dénoncer. D'ailleurs, petite parenthèse encore, parce que là, je pourrais pas lire l'article, mais il y a aussi un article sur sa nièce qui a passé quelques mois chez lui, qui était d'origine belge, tout comme lui. Elle a passé plusieurs mois habitant avec lui à Onamunshipu et il l'a violée constamment pendant ce temps-là. Elle ne pouvait pas s'en aller parce que on pouvait juste prendre l'avion pour partir. Mm-hmm. Elle n'avait pas d'argent. C'était vraiment un endroit très, très isolé. Mm. Alors, Marguerite Mestenapeo, la sœur de Pierrette, dont on parlait plus haut, a tenté une fois de parler des agressions sexuelles qu'elle avait subies. Elle se souvient de la réponse de sa mère. Elle m'a dit de ne pas dire ça parce que le prêtre, c'était un dieu et qu'il était appelé par Dieu. Alors, c'est difficile de savoir est-ce qu'il était dieu ou appelé par Dieu. C'est pas tout à fait la même chose, mais... on parle de sœur Armande Dumas, qui a bien connu le père Joveneau pour avoir travaillé avec lui à Onamunshipu et qui mentionne que ses révélations ne sont que la pointe de l'iceberg. Et c'est ça, il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, mais je partagerai ça avec vous durant la deuxième partie de l'émission, puisque c'est ainsi que se termine cette première partie, et on vous revient après une courte pause.
Dum tilly dum tilly dilly dilly dum. Pomash goosh nooch wash natch welch. Ikumaka te ketch tit naka noodle. Wash not your out, come on, get the catch that knock a noodle. Come on, get it, catch it, knock a noodle.
Sainte-Marie nous chantait le Sauvage du Nord.
Merci beaucoup. Et puis, ben, je vais continuer dans ce sujet tellement réjouissant. Je vais juste continuer sur l'article de tout à l'heure en racontant un peu plus en détail l'histoire de Siméon Malek. En 1989, il avait très hâte de faire sa première communion, un moment qu'on lui avait présenté comme très important dans sa vie. Le petit garçon de 8 ans est donc arrivé tôt pour la cérémonie. Il était le premier sur place. Il a alors décidé de se rendre au presbytère, là où la porte était toujours débarrée. Il voulait aller jaser avec celui que l'on surnommait Dieu. Alexis Jovenot l'a accueilli et lui a montré la direction d'une chambre. L'enfant avait très peur dans cette pièce pourvue d'une fenêtre minuscule où il y avait très peu de lumière. Plusieurs personnes ont d'ailleurs témoigné avoir été agressées dans cette pièce, que le prêtre appelait son petit salon dans les lettres qu'il a écrites à sa nièce. Dont on parlait tout à l'heure, sa nièce qui a été agressée... dans ce petit salon, justement. Siméon Malek tremblait. Celui dont il avait tant entendu parler l'a déshabillé, s'est déshabillé à son tour et l'a caressé. L'enfant ne se sentait pas bien. Déterminé à assouvir ses pulsions sexuelles, Alexis Jovenot, qui avait alors 63 ans, a pris la tête du petit garçon et lui a indiqué quoi faire. « Tout au long de l'agression, il m'a fait des promesses, il m'a fait peur, il me disait de bien faire ça, que sinon, je n'irais pas au paradis. C'est très dur pour un jeune garçon innocent. » Je vais vous épargner la suite, mais c'est pour vous dire à quel point il y a vraiment, vraiment plusieurs témoignages là, qui s'additionnent. Philomène Bellefleur, qui a été agressée à partir de l'âge de 7-8 ans. Pierrette Mestedin-Péo, 12-13 ans. Diana Marc, à 7-8 ans aussi. Céline Lalo, 12-13 ans. Sébastien Malek, 8 ans. Il n'y avait vraiment pas de préférence pour les âges ou les sexes de ses victimes. 22 ans pour Marguerite Mestenapeo. Bref, la liste est terriblement longue. Mais j'ai choisi comme deuxième article répondre peut-être à la question « Le père Jovenot a-t-il été caché au Québec par les oblats d'Europe? » Cette fois-ci, c'est un texte de Camille Garnier qui est paru lundi 26 mars. La communauté des Oblats en Europe a-t-elle voulu cacher au Canada un père dont elle connaissait le comportement d'agresseur sexuel? La question se pose plus que jamais lorsqu'on apprend que, même s'il le croit partiellement coupable, un religieux qui aurait agressé plusieurs enfants inuits est actuellement hébergé par les Oblats en France, à l'abri de la justice canadienne. Le père Johannes Rivoire, 87 ans, habite dans une maison d'Oblats à Strasbourg. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la GRC il y a 20 ans, pour des agressions sexuelles sur des Inuits dans les années 60 et 70 au Nunavut.
Un peu long comme...
Réflexion que je me suis faite en lisant ça, tout le long de l'article, je me disais, mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne demande pas l'extradition? C'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas d'entente d'extradition pour les crimes sexuels ou est-ce qu'on s'en fout parce que c'est des Inuits? Un peu triste si c'est ça la réponse. Bref, ce modus operandi qu'un prêtre soupçonné d'agression sexuelle se déplace avant des poursuites a été utilisé à plusieurs reprises. Hein, c'est pas nouveau, on en a entendu plusieurs. C'est pas seulement au Canada, aux États-Unis aussi, il y a eu des scandales qui ont été révélés récemment. Malgré les apparences, les Oblats nient cacher Ivoire et le laisseraient partir si la police venait l'arrêter. En attendant, il est nourri et logé par les Oblats qui soutiennent ainsi s'assurer qu'il ne puisse pas faire de nouvelles victimes. Certains Oblats, comme le père Rivoire, semblent profiter du manque de volonté des gouvernements pour se mettre à l'abri de la justice à l'étranger. Le journal s'est rendu à Strasbourg, dans le nord-est de la France, pour tenter de lui parler. Sur place, le religieux responsable des lieux lui a refusé l'accès au père Rivoire avant d'empoigner violemment par le bras le représentant du journal. Depuis vendredi, le journal rapporte que le père Alexis Jovenot, arrivé de Belgique en 1952, a fait d'innombrables victimes d'agressions sexuelles, physiques et psychologiques jusqu'à sa mort en Basse-Côte-Nord en 1992. Les Oblats auraient-ils renvoyé en Belgique le père Jovenot s'ils avaient connu tous les sévices révélés par l'enquête du journal depuis 3 jours, ou l'auraient-ils livré à la justice? Impossible de le savoir, mais les Oblats du Québec admettent que des prêtres agresseurs se sont réfugiés en Europe dans le passé. On a eu quelques cas comme ça, comme Rivoire, qui nous ont glissé entre les doigts, qui était dans une maison de retraités, a dit le père provincial Luc Tardif lors d'une entrevue qu'il nous accordait récemment. Le chef des Oblats français, Vincent Gruber, s'est entretenu plusieurs fois avec Johannes Rivoire dans les 3 dernières années. Ce qu'il me dit, c'est qu'il ne reconnaît pas d'attouchement sur des garçons, a commencé par dire le chef Oblat. Questionné à savoir s'il avait interrogé M. Rivoire sur les filles, M. Gruber a soutenu que le père avait été évasif. Mm-hmm. Il n'a pas répondu clairement au sujet des filles, mais c'est mon intime conviction. Je pense qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, si vous voulez savoir. Ces agressions ont été dénoncées pour la première fois en 1991 par une de ses victimes alléguées, Marius Tungilik, lors d'une audience de la Commission royale sur les peuples autochtones. Alors, Commission royale en 1991 et aujourd'hui, le prêtre est toujours... c'est à se demander si la commission actuelle va vraiment donner quelque chose, mais en tout cas, il ne faut pas lâcher. Donc, les agressions avaient été dénoncées pour la première fois sans toutefois nommer le père Oblat. L'homme, donc M. Tungilik, est décédé en 2012 d'une intoxication à l'alcool après avoir mené un long combat pour obtenir justice. En 1993, Johannes Rivoire s'est mis à l'abri des problèmes judiciaires en rentrant en France, affirmant devoir s'occuper de ses parents. En 1998, lorsque le mandat d'arrêt de la GRC fut lancé contre lui, Rivoire coulait des jours tranquilles dans une maison d'Oblat du sud du pays à Goult. « Je sens qu'il ne veut pas y aller au Canada, ça c'est sûr », indique M. Gruber. Et on a envie de dire « Non, vraiment ». Je sais pas s'il me reste un peu de temps. C'est ça, je pense que ça dit tout. Évidemment, si vous allez dans le Journal de Montréal, sur le site web, vous allez trouver tous les articles, beaucoup plus d'informations. Et c'est ça, on pose justement la question qu'on posait au début, le père Alexis Jovenot, est-ce qu'il aurait été transféré après une agression? Il est arrivé au Canada en 1952 dans la communauté crie de Moosonee en Ontario. Et 6 mois plus tard, il a été muté à Davis Inlet au Labrador. Selon 4 témoignages recueillis de façon indépendante et sous le couvert de l'anonymat, il aurait fait au moins une victime au Labrador avant d'être transféré à Unamin-Chipu et Pakwashipi sur la Basse-Côte-Nord. Est-ce que les Oblats connaissaient cette agression avant de le transférer au Québec? La réponse se trouve peut-être dans les archives personnelles du missionnaire qui ont été mises sous scellé pour 50 ans. Et peut-être que dans 50 ans, on va en apprendre davantage. Alors, comme je dis, si vous voulez plus de détails, vraiment des histoires, ça glace le sang, mais en même temps, je trouve que c'est important d'en parler parce qu'on a tendance à balayer ça sous le tapis parce qu'il s'agit de personnes vulnérables et qui n'ont pas les moyens de se plaindre. Voilà.
Bon, je vous ai dit tantôt que je vous parlerais du gala des prix Juno.
Oui.
C'est un article qui est paru dans la presse. Je ne savais pas si je lirais. Puis après, je me suis dit, on n'entend pas beaucoup parler de ce gala.
Ben non, parce que c'est comme le gala des anglophones. Oui. C'est la disque des anglophones.
Ça devrait être le Canada au complet. Donc, je l'ai lu. Je me suis dit, ah ouais, je pense que ça vaut la peine quand même. Donc, ça a paru le 27 mars dans la section Or de la presse plus. Pour le gala de la musique canadienne, le français semble être une langue étrangère. C'est du moins l'impression qu'il donnait... Ah oui, c'est Marc Cassivi en passant qui a écrit l'article. C'est du moins l'impression qu'il donnait dimanche soir alors que le français a pratiquement été évacué du gala des prix Juno. Je dis pas Juno, hein, puis je vous dirai pourquoi.
Ah d'accord, intéressant.
Diffusé sur les ondes de la CBC. Pas un seul lauréat francophone à l'exception de Régine Chassagne, membre d'Arcade Fire, ni de performance d'artistes francophones pendant toute la cérémonie. C'était à se demander si les francophones étaient les bienvenus à cette célébration musicale, supposément pan-canadienne. Sur pas moins de 46 prix remis le week-end dernier, un seul l'a été à un artiste francophone, Daniel Bélanger, dont l'album Paloma a été sacré album francophone de l'année, seule catégorie spécifiquement francophone de l'événement. En comparaison, il y a deux catégories pour la musique roots traditionnelle ou contemporaine. Je ne saurais dire laquelle est la plus crémeuse. Le prix remporté, par Daniel Bélanger, un monument de la chanson québécoise, a évidemment été remis hors d'onde samedi.
Ben oui, parce qu'évidemment, il y a un gala hors d'onde et c'est dans celui-là qu'on...
Ça fait pitié un peu. D'un coup qu'on ferait entendre le lauréat francophone sur les ondes de la télévision publique canadienne-anglaise à heure de grande écoute, c'est presque honteux. Sauf erreur, le français est encore l'une des deux langues officielles du Canada. En cette soirée des prix Juno, alors qu'une place de choix a été faite à la diversité et aux minorités ethniques et linguistiques, il aurait été difficile de moins bien souligner la présence et l'existence du français au pays, même en redoublant d'efforts.
Il est un peu, on sent qu'il est un peu fâché, Marc-Assivier.
Je pense que ouais, le ton était...
Il est pas content.
La catégorie de l'album francophone ne semble d'ailleurs exister que pour donner une bonne conscience aux organisateurs, tellement il y a peu de finalistes francophones dans les catégories de pointe. Les artistes francophones sont pour la plupart cantonnés à leur carré de sable linguistique, comme le sont les films en langue étrangère aux Oscars. Sauf qu'aux Oscars, le lauréat chilien, suédois ou français a au moins l'occasion d'aller cueillir son prix en onde.
Ça, c'est vrai.
Petite pointe en passant. Aucun artiste francophone n'était disponible dimanche pour chanter pendant le gala, c'est la question qui se pose. Pas une seule Québécoise n'aurait pu remplacer au pied levé Hedley lorsque son numéro a été annulé en raison des allégations d'inconduite sexuelle contre son chanteur Jacob Hoggard. La très talentueuse et parfaitement bilingue Charlotte Cardin, qui était finaliste dans deux catégories et a présenté un prix avec quelques mots de français, n'aurait pas été une candidate toute désignée. Elle était déjà sur place.
Elle était déjà là.
Dans le fond, ça n'aurait pas coûté cher de transport. Ce n'est pas d'hier que le français est traité comme une langue étrangère par les organisateurs des prix Juno. Et voilà le punch. Je me souviens même pas de ça. Nommé en l'honneur de l'ancien président du CRTC, Pierre Juno.
Oui.
Donc, c'est pas Juno,
c'est Juno. Là, donc
et voilà, un francophone. En près de 50 ans d'existence, jamais le gala de la musique canadienne n'a été présenté au Québec. Il s'est promené à Toronto, à Vancouver, en passant par St. John's, Terre-Neuve, Saskatoon, Winnipeg, Edmonton, Regina, Hamilton, Ottawa et Calgary. Mais ne s'est jamais arrêté à Montréal ni à Québec.
Ben, il ne devait pas avoir de salle disponible
probablement.
Pour les dates.
Ça, on est trop occupés ici. Le gala des prix Juno existe depuis 1970, mais ce n'est qu'en 1992 que la catégorie de l'album francophone de l'année a vu le jour. Et ce n'est que depuis 2003 que ce prix est remis par un jury en bonne et due forme. Auparavant, il récompensait l'album francophone s'étant le plus vendu.
Tout simplement.
Le jury a d'ailleurs sélectionné les œuvres d'une brochette impressionnante de finalistes cette année. Alex Nevsky, Claude Pelgag, Patrice Michaud, Pierre Lapointe et Daniel Bélanger. Ce ne fut pas toujours le cas. Les cinq finalistes pour l'album francophone de l'année 2005, par exemple, étaient Audrey de Montigny, Danny Bédard, Nicolas Ciccone, Marie-Hélène Thibert et Les Trois Accords. Ce n'est donc pas faute de bons candidats que les 47e prix Juno ont snobé les artistes francophones. Je suis l'un des derniers chroniqueurs de la presse francophone que l'on pourrait accuser de Canada bashing. J'ai versé une larme, oui, comme Justin Trudeau. Lorsque Gord Downie est mort, je suis un fan de la première heure d'Arcade Fire qui a bon dos lorsqu'il est question de désigner des artistes québécois dans un gala. Effectivement, on dit souvent qu'Arcade Fire est québécois,
ouais,
mais
c'est
en réalité,
ça, on s'en vante, mais...
vraiment, ouais. En tout cas. Mais en voyant le dernier album de Nickelback retenu dans la catégorie de l'album rock, je me suis dit qu'on aurait pu sans effort trouver l'équivalent, sinon mieux, chez des artistes francophones. Ce n'est pas du chauvinisme, c'est de l'ouverture d'esprit. Il y a en ce moment du talent à revendre en musique québécoise, tout genre et style confondus. Philippe Braque, Loud Galaxy ont fait paraître des albums depuis quelques mois. Ils ne sont peut-être pas connus au Canada anglais, mais ils mériteraient de l'être et de se trouver au gala des prix Juno l'an prochain et pas seulement dans la catégorie de l'album francophone. Si le gala des prix Juno veut faire fi du français, cela dit qu'il ne change pas de iota. Que son site internet est exclusivement en anglais.
Pour vrai?
Oui, absolument. Tout comme ses réseaux sociaux. Pendant tout le gala de dimanche, pas un seul tweet en français n'a été publié. Et un seul gazouillis bilingue de la ministre du patrimoine, Mélanie Joly, a relayé par le compte Twitter officiellement de l'événement. D'ailleurs, ça devait être très clair, son message.
Je n'osais pas le dire. C'était bilingue, mais dans les deux langues, on ne comprenait pas, probablement.
Mais si le Gala des Prix Juno veut se consacrer uniquement ou presque à la musique anglo-canadienne, il faudrait qu'il en avise, ne serait-ce que par politesse, les artistes et le public francophone. On est convié à la fête ou on ne l'est pas. On ne peut pas l'être à moitié, hors d'onde, non. La veille du vrai party. Ce n'est pas acceptable.
Serge, pour terminer, un petit sujet réjouissant pour finir l'émission.
Oui, oui, un peu amusant, ça fait sourire. toujours dans la revue Historia spéciale sur les tuniques bleues, l'article s'intitule « Les bleus roulent leur bosse ». Un article de Véronique Dumas. Dans les années 1830, les camélidés sont le nouveau cheval de bataille de quelques hauts placés. L'animal est robuste, chez lui en milieu aride. L'armée rumine l'idée, concrétisée en 1856 par la création d'un étonnant Camel Corps. En 1934, le dromadaire femelle Topsy rend son dernier soupir à 81 ans.
Oh, quand même! Ça vit longtemps, le dromadaire.
Camélidée.
Oui, au zoo de Griffith Park à Los Angeles. Elle est l'un des derniers survivants de l'éphémère groupe méhariste créé au sein de l'armée américaine en 1856. L'histoire méconnue de ce Camel Corps commence dans les années 1830, lorsque le major Grossman propose au département de la guerre d'avoir recours à ces animaux dans le sud-ouest du pays en raison de leur endurance et de leur extraordinaire adaptation aux environnements les plus arides. Ces bêtes, écrit-il dans son rapport, sont capables de porter chacune jusqu'à 410 kilos.
Oh, c'est beaucoup, ça!
De parcourir 50 à 60 kilomètres par jour et de tenir une semaine sans boire et presque sans manger. Un gros avantage.
C'est... Ouais. Mais j'imagine qu'ils ne peuvent pas soulever leurs 410 kilos en même temps qu'ils ne mangent pas pendant une semaine. Ça doit...
Non, d'après l'article... Les deux, ça... non. Elle s'adapte à tous les terrains, court vite et reste impavide au cœur de la bataille. Bien qu'elle suscite l'intérêt de quelques militaires, sa suggestion reste sans suite. En 1847, le major Henry Wayne rédige un second rapport qui attire cette fois l'attention du sénateur du Mississippi, Jefferson Davis. Mais celui-ci ne parvient pas à obtenir les fonds nécessaires à sa mise en œuvre. Davis ne baisse pas les bras et convainc en 1853, après avoir été nommé secrétaire d'État à la guerre, le président Franklin Pierce et le Congrès, de la nécessité de créer un corps de méharistes. En mars 1855, le Congrès débloque 30 000 $ de l'époque, c'est-à-dire un bon petit montant.
Oui, oui. Ça devait être quand même beaucoup.
Oui, pour que le major Wayne se rende en Afrique du Nord, en Turquie et en Égypte. Il y achète une trentaine de chameaux et de dromadaires, embarqués à bord d'un USS Supply spécialement aménagé pour l'occasion. Sanglé avec soin, hissé à l'aide de palans du bateau au quai, les premières bêtes sont débarquées à Indianola, au Texas, le 14 mai 1856. Accompagnées de leurs chameliers, elles sont conduites dans un corral construit spécialement à Camp Verde, près de San Antonio, au Texas. Quant au USS Supply, à peine est-il déchargé de ses pensionnaires qu'il fait demi-tour pour en chercher d'autres. À son retour, le Camel Corps compte 70 têtes. Pendant quelques mois, les animaux s'adaptent à leur nouveau mode de vie. Les soldats, formés par les chameliers, apprennent à sceller ces montures d'un genre nouveau, mais aussi à en prendre soin. Ils constatent rapidement l'aversion, visiblement réciproque, là, entre les camélidés et les équidés.
Ah oui, les chevaux et les chameaux, là, c'est pas, ça fait pas pour ménage.
La vue, et surtout, la vue, ici, je ne blairais pas, là.
Non,
la vue, et surtout l'odeur âcre des premiers effraie les seconds. Les hommes, de leur côté, doivent aussi s'habituer au tempérament chatouilleux des vaisseaux du désert, affectueux, mais prompt à se vexer et à le manifester en blatérant bruyamment.
Sont susceptibles.
Vous rappelez-vous le capitaine Haddock dans Tintin avec les
chameaux? Mais c'était pas un amant.
L'amant, je crois qu'il l'a eu pour les chameaux, ça m'a donné. Oui, oui.
Mais c'est vrai, peut-être qu'il y avait aussi les chameaux.
Oui, oui. Quiconque se permet de les battre subit une riposte immédiate, ruade, voire morsure, c'est selon. Le nouveau secrétaire d'État à la guerre, John B. Floyd, affecte 35 camélidés à la construction d'une route située le long du 35e parallèle nord, du Nouveau-Mexique à la rivière Colorado, à la frontière de l'Arizona et de la Californie. D'abord peu enthousiaste, le responsable du chantier, Edward F. Beale, finit par reconnaître leur résistance, bien supérieure à celle des chevaux et des mules. Le travail est rude, les conditions climatiques extrêmes. Cette aventure de près de 4 mois, de fin juin à octobre 1857, manque de finir tragiquement quand l'équipe se retrouve bloquée par un infranchissable canyon. Un petit groupe d'éclaireurs trouvera un passage, guidé par ces montures qui, cerise sur le gâteau, leur auront indiqué en chemin les points d'eau.
Mm-hmm. Les chameaux peuvent reconnaître les points d'eau. En plus, ils peuvent trouver où... Ouais. Ça, c'est vraiment... Ouais, ouais.
Au lieu de rendre les animaux au gouvernement à l'issue des travaux, Edward F. Beale les laisse à son associé Samuel A. Bishop, qui les emploie au transport de marchandises en Californie. Surpris par une attaque d'Indiens Mohaves, il va, avec l'aide de ses employés, les mettre en déroute en menant la seule charge à dos de chameaux de toute l'histoire des États-Unis.
OK, il y en a eu juste une.
Juste une, oui, oui, oui. En novembre 1859, l'armée américaine, qui est parvenue à récupérer le troupeau, l'emploie à la distribution du courrier. Hélas, du courrier, ouais. Ben oui, participez le courrier aux différentes forts garnisons qui étaient
éparpillés. C'est les ancêtres des drones, finalement.
Oui, à peu près, oui. Les pauvres.
Des drones madères.
Ouais.
Les drones!
Oh boy, ce matin! Bon.
On commence à se réveiller un peu
ce matin, là, oui. Hélas, les camélidés échoueront dans cette mission. Certains meurent même d'épuisement. Mm-hmm. Les pauvres.
Ah non, ça c'est triste. Par
ils ont testé en masse.
Pourtant, ils ont encore l'occasion de prouver leur valeur lors d'une expédition à la frontière entre le Nevada et la Californie. Une équipe d'ingénieurs topographes perdus en plein désert Mohave ne devra son salut qu'à leur instinct infaillible. L'expérience du Camel Corps mériterait d'être poursuivie, mais la guerre de sécession éclate. Les animaux et, leurs chameliers se retrouvent à présent dans les rangs des confédérés qui, pour la plupart, n'ont pas l'idée ou l'envie de les utiliser. Parfois maltraités, voire abattus, chameaux et dromadaires restants échouent dans des cirques et dans des zoos, d'autres sont relâchés dans la nature et des témoins signaleront la présence d'individus isolés jusqu'en 1956.
Ah oui?
Ouais.
Des dromadaires sauvages dans la nature.
Sauvages, oui, qui se promenaient.
Eh
bien! Ah, voilà!
Et parlant de drones madar, les drones d'Amazon pourront deviner quand ils ne sont pas les bienvenus. Reste à savoir si ça peut s'appliquer aussi aux camélidés. Deux brevets, tout juste obtenus par la multinationale de Seattle, permettront à ces drones effectuant la livraison de colis d'identifier les hauts cris poussés par des gens ne désirant pas leur présence près d'eux. Ces mêmes drones pourront aussi reconnaître les grands mouvements des bras, signifiant qu'ils ne sont pas les bienvenus, explique le Washington Post. Les humains pourront ainsi communiquer avec le véhicule en utilisant des gestes humains, résume l'application de brevet.
Ce matin, dans le journal, vous vous souvenez que Prince est décédé. Tout le monde connaît Prince.
Oui, ça fait quelques mois déjà. Ouais.
Apparemment, ça serait une surdose de fentanyl. Et ce qui m'a impressionné un peu, c'est qu'on dit ce médicament, 50 fois plus fort qu'une dose d'héroïne, peut tuer à partir du moment où son taux atteint 58 microgrammes par litre de sang. 58 microgrammes par litre de sang.
Ouais.
Dans le cas de Prince, les médecins ont noté un taux de 450 microgrammes de fentanyl par kilo dans son foie. alors que la limite d'intoxication est de 69 microgrammes.
Wow.
On dit qu'il prenait ça comme antidouleur, là, mais j'imagine,
j'imagine qu'il avait développé mal à plein une résistance, temps, mal, mais ouais, mon Dieu.
Donc ça a été annoncé ce matin
wow.
dans pas mal tous les journaux, je suppose.
Serge, une petite dernière?
Oui, deux, trois petites même, de Pierre Dac. La pédiatrie, c'est l'art médical noble et généreux d'empêcher l'enfance de vieillir avant l'âge. L'attention d'un malade est à la mesure de l'attention que lui porte le médecin qui la lui prend. Le fait d'avoir la tête en feu n'exclut pas toutefois et néanmoins d'avoir le feu au cul.
Ah, merci. Eh bien, sur ces paroles sages, ça termine cette émission de, des voix de service MAG du 28 mars. J'ai toujours du mal. Merci beaucoup à Maurice Bolduc à la mise en onde. Merci Daniel Lachance, Serge Bradet et moi-même Isabelle Falardeau. Je vous dis bonne semaine. Merci.